De l'enfance, garder un sourire, un mot, une innocence, une insouciance, un enthousiasme, la joie. À 8 ans, 10 ans, 20, 50, toujours cultiver cette petite voix. S'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton, une planète, un avenir.
Pascal Paradou.
L'enfance est-elle un univers à part, un temps à part, un genre à part? Si c'est le cas, alors Aldebert est le maestro ou le DJ en chef de cette histoire. Aldebert, chanteur pour enfants ou chanteur de l'enfance, qui depuis presque 20 ans accumule les succès, ses albums se vendent par milliers et au fil des concerts, son public aurait dépassé le million. Bonjour Aldebert.
Bonjour.
Vous écoutez, est-il compatible avec la phrase « Fais donc tes devoirs » ?
Oui, je pense. On peut même écouter des chansons en faisant ses devoirs. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait étant enfant. C'est ce que je fais avec mes enfants. On peut se concentrer avec de la musique. Ça peut même aider, je pense.
En ce début d'année scolaire, vous sortez donc un nouvel album intitulé « Enfantillage 4 » avec beaucoup de duos et des thématiques très proches de l'actualité. Est-ce qu'on peut tout raconter aux enfants ?
Je pense, ouais. En tout cas, moi, j'ai envie de le faire. Je pense à des sujets comme cette chanson avec Calogero qui s'appelle « Double papa », qui traite de l'homoparentalité, qui est un thème qui peut être un petit peu délicat. Puis finalement, non, parce que cette chanson, par exemple, et ce thème, ça vient d'une rencontre avec cette famille composée de deux papas qui sont devenus des amis. Et j'en ai parlé très vite à mes enfants. Je leur ai dit que j'avais cette intention de parler de cette famille et de raconter une histoire d'amour, une histoire familiale. Et je leur ai dit, voilà, la petite Rose, qui est Camille dans la chanson, elle a deux papas. Elle n'a pas de maman. Et ça ne les a pas troublés plus que ça. Ils ont dit, tiens, ok, d'accord. Et voilà, donc je pense qu'il faut leur en parler simplement et être le plus sincère possible. Et ça passe très bien.
Vos enfants sont les premières personnes à qui vous parlez des thèmes des chansons ?
Pas forcément.
Des cobayes, presque.
Ouais, presque, parce que mon bureau n'est pas très loin du salon. Donc ils entendent forcément les maquettes, les répétitions. Des fois, ils passent me voir, ils me disent « Tiens, t'es en train d'écrire sur quoi ?» Je leur fais écouter des petits bouts, des trucs comme ça. Voir un petit peu comment ils réagissent. Alors, c'est pas le laboratoire non plus, mais j'aime bien. Je les implique aussi beaucoup. Je les fais réagir, je les enregistre. On fait des petits sketchs ensemble, des duos même, comme cette chanson avec Charlie.
Et vous avez décidé d'écrire pour les enfants, parce que vous aviez des enfants ?
Non, pas du tout. J'ai écrit sur l'enfance parce que j'avais besoin de le faire. Et c'est arrivé un peu par hasard, c'est-à-dire que le premier enfantillage qui était sorti en 2008, à l'époque, je n'étais pas du tout papa, donc j'étais dans une espèce de projection. Mais quand j'écris dans l'univers enfantillage, je suis un adulte et je suis un enfant. C'est-à-dire que j'ai peut-être involontairement en fait construit une espèce de double lecture dans ces chansons et on m'a souvent identifié comme chanteur pour parents, c'est rigolo, ou chanteur pour enfants, ce que j'assume très bien en fait et c'est ma volonté en fait de connecter ces deux générations, même celle des grands-parents aussi.
Mais vous dites que vous êtes un chanteur qui écrit sur l'enfance, pas forcément pour les grands ou les petits.
Ouais, c'est ce que Le Forestier m'a dit sur Enfantillage 1. Parce que, voilà, Enfantillage 1, c'était un coup d'essai. Je ne savais pas du tout comment ouvrir cette parenthèse sur l'enfance. Je ne sais pas faire des chansons pour enfants de façon traditionnelle, c'est-à-dire des chansons qui sont écoutées que par les enfants. Donc, il y a cet adulte qui intervient forcément.
Mais je trouve que vous avez un nom prédestiné, Aldebert. Ah. Pour moi, ça évoque les chevaliers, oui. Les contes, les légendes. Et puis, ça me fait penser à Dagobert et à la comptine. Vous savez, le bon roi, ouais. Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Et là, vous me faites presque chanter, ce qui est un scoop. C'est votre vrai nom, ça,
ouais.
C'est votre vrai nom.
C'est rigolo, cette remarque. On me l'a fait assez souvent. Parce qu'on me dit, tiens, t'as un nom qui fait personnage de bande dessinée.
Aussi.
C'est quoi ton vrai nom? C'est mon patronyme, c'est Aldebert. Du coup, j'ai gardé ça, c'était simple et puis efficace, ça se retenait bien. Quoi.
Et bien, de l'enfance, vous aimez quoi? De votre enfance, vous gardez quoi?
Des choses plutôt heureuses, mais aussi quelques traumatismes, parce que je trouve que c'est une période de la vie où on a vraiment les émotions à fleur de peau, et il y a des choses assez dures qui peuvent arriver. Et puis, ça va très vite. Moi, j'ai l'impression que c'est une... Enfin, j'aime bien cette période de la vie, parce que c'est assez rock'n'roll, finalement. Moi, j'ai vécu des choses très belles, beaucoup de stress aussi. Par exemple, à l'école, je trouve que c'est une période assez difficile, notamment le collège. Je trouve que c'est vraiment une espèce d'arène. Je ne sais pas comment traduire ça.
Mais vous écrivez pour les petits ou pour les collégiens?
C'est, je crois que vraiment la
sienne tranche d'âge... Parce que votre écriture est complexe quand même. Hein. C'est pas la comptine pour enfants areux.
Non. Non, je pense que enfantillage, ça démarre à 5 ans, 5-6 ans. Et après, arrivé au collège, je pense qu'on switch. Les ados qui arrivent là sont partis sur la musique urbaine, le hip-hop. Ils veulent écouter de la musique de grands. Pour les grands. Et donc, enfantillage a ses limites en termes de public. Et après, quand ils deviennent parents, hop, ça reprend.
Et donc, la boucle est bouclée.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, à 5 ans, on a l'âge d'interpeller ses parents. Chanson drôle et cruelle en duo avec Thomas Dutronc.
Papa.
Ouais.
Tu m'écoutes là?
Ouais, je t'écoute.
Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui?
Non, dis-moi.
Ben, j'étais chez Mathéo. On a pris la tronçonneuse de son papy au garage.
Ouais.
On a découpé sa tortue.
Ouais.
Et sa petite sœur aussi. Puis après, on a brûlé sa maison.
Ok.
Puis je suis rentrée.
Oh, c'est bien ça, tu dois être content, dis donc.
Voilà.
Ma maman m'a demandé hier si tout s'était bien passé aujourd'hui à l'école. Maman, tu ne connais pas la dernière. Depuis quelques temps déjà, le dimanche, y a pas école, hein.
Même quand ils sont là, ils sont pas là. Il n'y a que leur pouce qui s'agite, et encore, comme Mowgli face au serpent, car on a dû jeter à mon papa un apple sort.
Micron, rendez-nous nos parents. Lâche-la en la pomme, merci, ça leur fera des vacances.
Micron, débranchez nos parents. Coupez-leur donc le wifi, on fera connaissance.
Ouh. Hop. Hop ça.
Ça tweet, ça tag, ça like, c'est sans fin. Là je me dis, mes frangines Adèle et Rebecca, sur ce coup-là s'en sortent plutôt bien. Elles auraient pu s'appeler Pixel et Retina.
Des wifi en quelque sorte.
Quand bien même entre deux mises à jour, on irait se ressourcer tous ensemble en forêt, bercé par le chant des oiseaux alentour.
Ça fait, et puis, et encore, et enfin.
Écran, rendez-nous nos parents. Lâchez-leur la pomme, merci, ça leur fera des vacances.
Écran, débranchez nos parents. Coupez-leur donc le wifi, on fera connaissance.
Plus besoin d'aller chez les sorcières pour se métamorphoser en zombie.
Munissez-vous d'une simple soupière et faites réchauffer au bain-marie.
Quelques grammes d'Instagram,
un zeste de Pinterest,
quelques gouttes de Facebook,
un grand tube de YouTube,
un demi-cœur de Twitter,
une petite boîte de WhatsApp,
une pointe de Waze de synthèse
et trois gousses de Bluetooth.
Écran, rendez-nous nos parents sur le nouvel album d'Aldebert, Enfantillage 4. Et vous venez juste de laisser votre portable où vous écriviez un petit SMS Aldebert. Donc voilà. Vous n'écoutez pas Aldebert, vous n'écoutez pas les enfants.
Non, mais de toute façon...
Il est connu que la vérité sort de la bouche des enfants, non ?
C'est vrai, de toute façon, cette chanson, elle est née d'une remarque de mon fils Charlie qu'on entend au début dans un petit sketch où il rentre de l'école, j'arrive à la maison, je suis en train de scroller sur les réseaux.
Scroller, bravo.
Et il me raconte sa journée, je fais ça va mon cher, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'introduction. On a reproduit quelque chose qui s'est vraiment passé. Et il me dit tu veux pas poser ton téléphone et puis m'écouter vraiment. Donc je me dis ah, et ben voilà, tiens, paf, il y a une chanson à faire là.
Donc c'était une évidence, ça s'imposait. Est-ce que vous vous considérez comme un lanceur d'alerte aussi auprès des petits ou des parents, parce que c'est de la chanson à texte et de la chanson à message?
Oui. Alors c'est peut-être un peu fort, mais je préfère le terme peut-être de photographe. C'est-à-dire que moi j'ai une approche très visuelle des chansons et ces chansons sont souvent démarrent souvent avec une image. C'est arrivé avec le pyjama de mon deuxième, Gabin, sur lequel était écrit « Ne grandissez pas, c'est un piège », cette fameuse phrase de Peter Pan, où je me dis ça, cette phrase, elle est super. Et donc, envisageons l'âge adulte comme une espèce d'arnaque où on se serait fait avoir et une invitation à rester enfant, en fait. C'est ça l'idée.
Donc ça, c'est une chanson que vous chantez avec Oxmo Puccino.
Exactement, et Youssou N'Dour, ouais.
Dans l'album. Il y a quand même toujours une histoire aussi. Vous parlez de photographie, mais il y a une histoire qui s'impose tout de suite. Est-ce que c'est impératif, ça, de raconter une histoire pour s'adresser aux enfants?
Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est le côté bande dessinée. On parlait de photos. Il y a vraiment des passerelles entre ces médiums-là. C'est-à-dire que mon père était dessinateur, moi j'ai une culture beaucoup plus bande dessinée que littéraire, et j'envisage la chanson comme une planche de BD. Et vous l'avez dit, il y a cette contrainte des cases, du format où on doit raconter quelque chose en peu de temps. En l'occurrence, une chanson, c'est 3 minutes, 3 minutes 30. Et il y a un côté très visuel, avec des personnages, un cadre, et une petite chute, ou une petite morale, ou quelque chose à raconter, en tout cas.
Et puis, il y a aussi le goût des mots. Parce que dans la BD, il faut écrire juste, simple, direct, avec parfois le goût de la rime. On évoquait tout à l'heure, enfin, vous évoquiez cette chanson sur l'homoparentalité, double papa, que vous interprétez avec Calogero dans cet album. Deux îles sans elle. C'est s'amuser avec les mots,
ouais,
que d'imaginer cela, où vous jouez sur cette paire de pères qui vit un amour hors pair.
Ben oui, c'est ça. Moi, je trouve que j'ai toujours considéré les mots comme des outils. Et puis, il faut jouer avec, il faut s'amuser. Mes parents écoutaient beaucoup à la maison Brassens et Bobby Lapointe, Nougaro. Et ça, c'est des gens qui font vivre vraiment les mots et qui jonglent avec tout ça. Le Forestier aussi. C'est un jeu, c'est pas un exercice, en fait. C'est de la matière, en fait, qu'il faut s'amuser à les mêler, à jongler avec tout ça. Ouais.
Mais tous ceux que vous nommez, ce sont des chanteurs dans la catégorie poète.
Ouais, bien sûr.
C'est votre catégorie aussi ?
Oh là là, j'ai pas cette prétention-là, mais moi, ce sont mes modèles, en tout cas. Une chanson de Brassens, c'est quelque chose qu'on découvre presque toute sa vie. C'est-à-dire, moi, j'ai les souvenirs enfants d'écouter Le Gorille en disant à mes parents « Ah, elle est trop marrante, cette chanson sur ce grand singe et tout. » Et on découvre bien plus tard que c'est une chanson contre la peine de mort. Et donc, il y a aussi là plusieurs lectures. Donc, c'est en ça que ce sont des références, en fait, tous ces auteurs et ces poètes.
Pourquoi, comment écrivez-vous ? Un très grand nom de la chanson disparue il y a à peine un an a répondu à cette question. C'est l'autrice des Fabulettes, Anne Sylvestre.
Les chansons, je pense, s'écrivent pendant des semaines, des mois, quelquefois des années. Et là, on peut retourner un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est pas « je mourrais si je ne chante pas », mais c'est une... Quelquefois, bon, une chanson est à plusieurs niveaux. Les gens la prennent comme ils la comprennent, c'est-à-dire qu'une chanson qui est chantée ne vous appartient plus. Mais quelquefois, l'idée de départ, le niveau de départ, c'est que vraiment, on chante et on écrit, surtout, on écrit... Parce qu'autrement, on va mourir, mais mourir vraiment. Et je pense que l'écriture est quelque chose qui aide, qui pas simplement aide à vivre, mais aide à ne pas mourir.
Aldebert, que pensez-vous de ce que dit Anne Sylvestre ? C'est grave ?
Oui, c'est très fort. Je comprends tout à fait ce qu'elle nous dit là. Alors, il y a cette urgence, et puis je crois que c'est parce qu'on est souvent chargé d'une émotion qu'il faut qu'on exprime. Et la chanson, elle permet ça. C'est une côté cathartique de la chanson. Moi, il y a plein de... J'ai beaucoup d'angoisse, comme tout le monde. Et du coup, les chansons, elles nous aident. Elles peuvent se transformer en béquille ou en séance de psy. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça où tout d'un coup, une fois que la chose est exprimée, ça peut être quelque chose d'heureux, pas forcément de triste. Hein. Il faut aussi écrire des chansons légères et rigolotes, mais ça nous aide, ça nous porte.
Elle fait partie de vos références aussi, Anne Sylvestre ?
Bien sûr, c'est le premier disque que j'ai eu à la maison quand j'étais petit. Ouais. Les Fabulettes, je me souviens très très bien, moi c'est une voix qui résonne très fort. J'ai eu la chance de travailler avec Anne Sylvestre, on a fait un duo ensemble sur Enfantillage 1. Et j'étais très impressionné, et c'était un moment magique de me retrouver en studio avec elle, avec cette voix de l'enfance. Moi j'ai plein de chansons, pour dessiner un bonhomme, c'est des trucs, c'est les premières chansons, les premiers souvenirs en tout cas de son et de musique que j'ai.
Alors ce que j'entends dans ce que dit Anne Sylvestre dans cet extrait, c'est que écrire c'est long, ça prend du temps, ça prend parfois même des années pour écrire une chose très simple qui s'appelle une chanson. Est-ce que c'est votre cas aussi ?
Non, non, non.
Vous êtes plus dans l'immédiateté ?
Alors ça dépend des chansons. Il y a des chansons qui sont plus compliquées dans le fond, dans la forme, et elles mettent du temps. Il y a des chansons qui se trouvent être des espèces de fulgurances comme ça. Je pense à Double Papa, parce que cette chanson, je l'avais composée, écrite en une soirée quasiment, parce que je sortais en fait d'un repas avec ces deux papas qui m'ont raconté leur aventure, que j'ai trouvé très belle. Et du coup, je suis rentré chez moi et la chanson commençait à s'écrire dans ma tête toute seule, tic, 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 tic. Et quand c'est comme ça, c'est génial.
Alors, j'imagine que ce qui est le plus long, c'est de concevoir l'album et de concevoir ces duos, puisque depuis 4 albums, Enfantillage 1 et aujourd'hui on est au numéro 4, vous chantez en duo dans cet album. Thomas Dutronc, on l'a entendu, mais il y a aussi Calogero, Camille, Yannick Noah, Alain Souchon, Jeanne Chéral. Comment vous arrivez à les convaincre ?
Bah, au fait,
parce
je leur...
C'est une affiche incroyable.
Oui, oui, c'est dingue. C'est vrai qu'Enfantillage se trouve être un album multi-interprète comme les précédents, parce que je trouve ça déjà intéressant que les invités incarnent des personnages ou me donnent la réplique s'ils sont des enfants ou des parents et tout ça. J'aime bien jouer avec ça, créer une espèce de dialogue. Et comment on les invite? Bah, très simplement, en fait, je crois que c'est la chanson qui invite les artistes. C'est-à-dire que la maquette, qui la plupart du temps est un guitare-voix amélioré ou un piano-voix, est envoyé parce que avec mon équipe, on se dit, tiens, cette chanson-là, moi, je verrais bien un tel ou un tel interprété, je l'entends dans cette chanson. Double Papa, j'entendais vraiment Calogero. On parlait de Thomas Dutronc tout à l'heure, dans une chanson qui est un petit peu typée musique de l'Est, Koustouritsa, jazz manouche. Naturellement, elle glisse vers Thomas Dutronc, qui est un peu dans cet univers-là. Donc, c'est comme ça que ça se passe.
Mais vous écrivez pour des voix différentes, pour des sonorités différentes, parce que ces chansons, toutes sont composées avec aussi des voix off, avec différents niveaux sonores.
Oui, oui, mais ça se fait. Je ne tiens pas du tout compte de l'invité. L'invité vient vraiment après. C'est vraiment la thématique, l'émotion, la couleur, l'énergie de la chanson qui, tout d'un coup, va se transformer. On va dire, tiens, ça, on va faire un morceau. Je pense au morceau avec Raphaël Mesrahi et Guillaume Meurice, qui est un morceau un peu disco, un morceau rigolo qui s'appelle Mythomane, qui raconte l'histoire de deux petits garçons qui se tirent la bourre à celui qui fera le plus gros mensonge. Donc là, on est dans une énergie rigolote et tout d'un coup, ça devient un truc disco. Mais toutes les chansons qui sont envoyées à mes collègues, à mes réalisateurs, sont en guitare-voix, à la Brassens, vraiment.
Et sur scène, vous êtes guitare-voix?
Ouais, pas tout le temps. Il y a beaucoup de chansons sur lesquelles je ne joue pas pour pouvoir avoir cette liberté de gambader et de sauter partout. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et donc, on est cinq sur scène et on délègue les parties à chaque musicien. Évidemment, les invités ne peuvent pas être là à chaque fois, donc je vais faire leur voix. Se pose le problème des chanteurs internationaux comme Youssou N'Dour et Peter Garrett, le chanteur de Midnight Oil, où là, ils sont carrément projetés sur l'écran. Ils ont fait des vidéos en amont et leur partie est interprétée en vidéo. Et sampler, comme on dit, quoi.
Peter Garrett, vous avez cité ce nom, et en effet, il se remarque sur votre album. Peter Garrett, c'est Midnight Oil. Superstar du rock des années 80, mais aussi militant et écologiste, et ministre de l'Environnement dans son pays, en Australie.
Dans la vie d'avant, des abeilles sur nos desserts et des journées sans écran. Pas de plastique à la mer, de la glace, des ours blancs, de la neige sur nos hivers. Wherever we look, the forest retreats, the coral is bleached by an endless sun. The ocean's so high, the jungles are quiet. Is it too late to say that nature's undone? Que s'est-il passé? Allez, rangeons nos mouchoirs. Écoutons la forêt pousser plutôt que les arbres choir. Quel manque de cervelle, puisque ainsi la branche sur laquelle on est assis. Lentement le temps passait, sans futile connexion, parfois même on s'ennuyait.
I hear the birds singing out, come protect me if you care, if you dare. If we let our hearts beat louder, and if our voices get so much stronger.
We draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Thank you.
We're not sitting down.
sur laquelle on est assis.
Ainsi soit-il avec Peter Garrett et la voix à la fin de la chanson de Greta Thunberg, en français, en anglais. Le titre peut donc faire le tour du monde et devenir l'hymne de l'écologie.
Wow.
Quelque chose comme ça. Est-ce que c'était une évidence d'écrire sur l'urgence climatique, justement ?
Oui, 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 il y avait. J'avais besoin de l'exprimer, en fait, quoi. Alors, c'est pas nouveau, évidemment, il y a plein de chansons sur l'écologie. Cette chanson, au départ, Assis soit-il, qui vient de cette image, en fait, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. C'était une balade, c'était vraiment un slow, quelque chose de très tranquille, une balade folk. Et puis, elle a pris une forme rock parce que le propos était revendicatif et j'avais cette image des enfants qui nous encerclaient et qui nous montraient du doigt en disant « Mais vous, qu'est-ce que vous avez foutu, les gars, là ? C'est n'importe quoi. » Je pensais aussi à la chanson de Pink Floyd « We don't need no », comme ça, cette espèce de manifestation d'enfants. J'avais envie de traduire ça.
Mais c'est une chanson parmi d'autres ou est-ce que vous, vous êtes hyper engagé sur ces questions-là ?
Alors, je ne sais pas si je suis hyper engagé, mais en tout cas, je suis hyper angoissé du monde qu'on va laisser, d'autant plus que voilà, j'ai 3 enfants, je les sens vraiment inquiets aussi, parce qu'ils voient bien ce qui se passe autour de nous, donc ouais, il y a une vraie inquiétude.
Personne n'est jamais trop petit pour faire bouger les choses, écrivez-vous. Alors il faut faire quoi ? Attendez tout petit.
J'ai pas la solution, mais en tout cas, il y a une vraie urgence. Et on sent qu'il y a une espèce d'inertie qui nous pèse à tous, quoi, les enfants comme les grands, quoi. C'est insupportable.
Et avec vos enfants, vous dites quoi ? Vous évitez de laisser le robinet ouvert ? Vous évitez de mettre la climatisation ? Vous évitez de prendre la voiture ?
On essaie. Non, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'ils sont sensibilisés à fond, en fait. C'est marrant.
Oui, beaucoup plus que nous.
Ah ouais. Mais moi, je leur fais pas la morale, la leçon tous les jours. Mais je les vois, en fait. Je les sens acteurs, en fait, de ce truc-là.
C'est important ce que vous dites. Une chanson n'est pas là pour faire la morale.
Oui, bien sûr. Je veux surtout pas faire la morale, évidemment, et puis aborder les thèmes de façon frontale, en fait, parce que je sais pas, je pense que ça passe pas quand on le fait comme ça. Donc il faut qu'il y ait un peu un décalage, soit l'humour, soit des images, en fait. Mais je pense que c'est le rôle d'une chanson.
Est-ce que vous pensez, Aldebert, qu'une chanson peut faire bouger les choses, faire bouger les consciences au moins ?
Oui, c'est possible. Alors, je ne sais pas si cette chanson va faire bouger les choses, mais si elle peut réveiller un petit peu les mentalités, tant mieux, c'est génial.
Réveiller les mentalités et peut-être donner le goût du monde, puisque cela, vous l'avez, comme Greta Thunberg d'ailleurs, mais un monde qui serait peut-être un peu plus vivable. Vous écrivez dans cet album une chanson avec Yannick Noah, « Emmène-moi ».
Une map monde. Quand je rêve de partir en mer, je m'éclaire avec le monde. Des cimes au fond des abysses, je veux jouer les Gullivers. Heureux qui, comme Ulysse, a su changer d'itinéraire.
Papa, maman, voilà mon plan. Nous allons boucler les baloches. En panoplie de Magellan, on va éteindre la téloche.
J'aimerais prendre mon envol pour l'année, naviguer, sillonner.
L'univers est une école, ma planète une cour de récré.
Emmène-moi, justifier que la terre est ronde. Tailler la zone au bout du monde. Le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur c'est le chemin.
Emmène-moi, voyager l'âme vagabonde, goûter à la beauté du monde. On dit que le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur c'est le chemin.
Y a-t-il un diplôme de promeneur, des cours de bac de nage, un cursus globe-trotteur, une faculté de pèlerinage?
Partons partout, petit papou pressé, papillon en épopée, en péripétie. J'attends les gens indigents, négligeant que la vie sans virie, à vie vous avilie. Sans élis, sans cela, sans lacet, et c'est lesquels, sans sama, sans s'enlisant. Ravivez le vent dans vos voiles avant que ne vole vos rêves inavoués enivrants.
Allez, retour, véloce, roulez toujours sa bosse.
Allez, retour, véloce, gardez ses rêves de gosse.
Emmène-moi, j'y
tailler la zone au bout du monde. On dit que le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur c'est le chemin.
Emmène-moi voyager là mon vagabonde, goûter à la beauté du monde.
On dit que le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur c'est le chemin.
Padam, padam, padam.
Emmène-moi en duo avec Yannick Noah. Il ne faut pas interpréter ce titre, Aldebert, comme une chanson pour faire le tour du monde et augmenter son bilan carbone. Hein. C'est plutôt un éloge de l'école buissonnière.
Oui, c'est un peu ça. C'est une invitation au voyage, à aller voir ailleurs, en fait. Quoi. Mais pas forcément à prendre l'avion.
Oui, parce que l'imagination est quand même beaucoup moins polluante que les avions.
Ouais. Et puis, de toute façon, j'ai été obligé de faire ce voyage imaginaire. Parce qu'au départ, on devait faire un tour du monde, en fait. Aller rencontrer plein d'acteurs, plein de musiciens pour enregistrer tout ça. Et on n'a pas pu. Donc, on a décidé de quand même faire ce voyage de façon un peu imaginaire.
Mais ça, c'est à cause ou grâce au Covid?
Ouais, complètement.
Ou c'est une décision de votre part? C'est-à-dire, c'en est fini de toutes ces tournées ou de tous ces voyages à l'international.
Au départ, c'est...
Regardez-moi dans les yeux.
Au départ, c'était enfantillage autour du monde et on avait monté une tournée presque mondiale avec des voyages en Asie, des séjours comme ça.
Ouais.
Et évidemment, à un moment donné, je me suis posé la question, mais est-ce que je continue d'écrire sur ce fil conducteur qu'est le voyage, cette invitation au voyage, même sans voyager, ou est-ce que je change complètement les états d'esprit et la façon d'écrire? Puis finalement, non, je me suis dit que la forme allait changer, mais le fond allait rester. Donc, il y a du voyage, mais il y a du voyage imaginaire aussi dans ces chansons.
Mais justement, si l'on doit garder quelque chose de l'enfance, puisque c'est une des questions quand on a passé le cap de l'âge adulte, voire beaucoup plus, ça serait quoi? Ça serait ce goût de l'imagination?
Bien sûr. Oui, c'est quelque chose qui peut s'éteindre un peu, et c'est un peu le danger. L'authenticité, l'énergie. Moi, c'est ce qui me plaît, en fait. Et puis, ce décalage, quoi, avec le monde réel. Les enfants, ils sont un petit peu tout le temps dans l'imaginaire. Et moi, j'ai envie de garder ce truc-là. Sampé disait, moi, je suis souvent raisonnable, mais jamais adulte. C'est-à-dire que, voilà, j'ai envie de garder ce qui me plaît chez les enfants, en fait.
Donc, on peut être père et enfant.
Ah, bien sûr, ouais.
C'est votre cas.
Vous voyez, là, j'ai un t-shirt Goldorak. Je précise pour les auditeurs qui nous écoutent, avec cette tête de Goldorak, qui est un vieux robot, maintenant un vieux manga. Et il y avait à l'intérieur de ce robot immense, aux formes un peu agressives, qui paraissait comme ça très solide, il y a à l'intérieur un petit monsieur qui s'appelle Actarus et qui pilote ce gros robot. Et moi, je me sens un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un petit garçon à l'intérieur qui pilote un peu ce vieux bonhomme chauve que je suis devenu.
Donc dans Aldebert, il y a Actarus.
Ouais, c'est ça.
C'était quoi votre rêve de gosse?
C'était...
De devenir Aldebert?
Non, je n'y pensais même pas. De toute façon, je pensais que ce n'était pas possible de devenir chanteur. C'est un truc impossible.
Est-ce qu'on sait qu'on devient grand quand on est petit, d'ailleurs? C'est pas sûr.
Non, c'est pas sûr. Ce dont j'étais sûr, c'était que je voulais raconter des histoires. Parce que c'est ce que j'ai commencé à faire à l'école très tôt.
Donc c'est gagné.
C'est gagné de ce côté-là, ouais.
Merci beaucoup Aldebert.
Merci
votre
à vous.
Votre album Enfantillage 4 est édité chez L'Aude, qui est un label de Sony Music. Et vous partez en tournée dès le 18 septembre jusqu'au 31 mai en France et à l'étranger. Et vous commencez par Bordeaux, mais c'est déjà complet. Et il paraît, parce que j'ai lu un article de Télérama sur vous, que dans certains concerts, des fans cassent des fauteuils.
Ah ouais,
le journaliste de Télérama dit « C'est arrivé dans une salle communale, on ne sait plus trop où ». C'est vrai ça?
Ouais, c'était en banlieue parisienne.
Et donc les gamins à 5-8 ans, ils cassent les fauteuils.
Ouais, on faisait à l'époque des séances scolaires avec le matin, on avait 1000-2000 enfants comme ça. Et vous savez, c'était les sièges dans les théâtres, un petit peu comme dans les cinémas qui se replient. Et les enfants étaient montés sur les sièges et ils avaient sauté. Je crois que le directeur disait « Oh, super, vous avez pété 5 sièges et tout ».
Eh ben bravo.
Il y avait un petit côté de Johnny Hallyday qui me plaisait bien quoi.
Merci beaucoup Aldebert. Merci. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo et Guillaume Ploquin à la réalisation. On se retrouve demain